Bonjour Romain de Haas.
Bonjour.
Avec vous, on va parler de voix et de souffle. Vous enseignez le chant et la coordination respiratoire. Vous le faites notamment à la Haute École de Musique de Lausanne. Et Frédéric Gonzette et Catherine Azad ont consacré un film documentaire à votre travail qui s'appelle « Robin des voix ». Les avant-premières commencent la semaine prochaine. Vous n'êtes pas venu seul, il y a vous aussi, Anne Ramoni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous soprano, professeur de chant, vous menez également un ensemble vocal, vous êtes formé à la coordination respiratoire. On va vous entendre parler, mais aussi chanter dans cette émission, comme vous, Betty Patural, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous chanteuse, autrice, compositrice, productrice, plutôt pop, de la musique, des chansons avec de l'électronique, on l'entendra. Votre premier
Absolument.
EP, un mini-album qui s'intitule « D'où je suis, où es-tu » avec des points d'interrogation, est sorti hier. On est très heureux de le vernir avec vous.
Et moi aussi.
Et on vous entendra aussi chanter dans cette émission. Et finalement, autour de cette table, Ivor Malherbe, bonjour.
Bonjour Benoît et bonjour à toutes et tous.
Vous avez préparé avec moi cette émission et la première question est pour vous.
Oui, et je voulais demander, eh bien peut-être qu'on va commencer par vous. À quel stade de votre vie est-ce que vous avez senti que vous étiez en accord avec votre voix?
Anne Ramoni.
C'est très très récent. C'est un travail de toute une vie et je pense que ce n'est pas fini. C'est exactement la même démarche que de se mettre en accord avec soi-même. D'être en accord avec sa voix, c'est vraiment la même démarche. Donc ça prend toute une vie et j'espère vivre encore suffisamment d'années pour encore m'approcher de moi-même et de qui je semble être et pour pouvoir exprimer le mieux possible et avec ma voix ce qu'est ma vraie nature.
De votre côté, Betty Patural, il y a un moment où vous vous êtes dit, voilà, je suis en phase, je suis en accord avec ma voix.
C'est pas facile de vraiment distinguer un moment parce que la musique, donc que ce soit la voix ou même la pratique d'un instrument, c'est un chemin qui dure toute la vie. On apprend toujours des choses, toujours, toujours. Et du coup, il y a certains instants où on se sent en phase, mais finalement, peut-être, quelques temps plus tard, ça sera une autre phase. Et on se sentira de nouveau en phase, puis d'autres moments un peu moins. Donc, il y a des moments clés dans la vie d'un chanteur, mais il y en a plein.
Et enfin, Robin de Haas, vous, il y a...
Moi, je dirais qu'il y a peut-être deux moments clés. Un premier moment, c'est suite à la énième opération, après toute la série d'opérations que j'ai dû avoir justement au niveau de la voix.
Puisque, alors, il faut juste qu'on explique, le documentaire de Frédéric Gonzette et Catherine Azad l'explique bien, vous l'expliquez bien dans le documentaire, mais vous êtes né avec une fente palatine, donc l'arrière de votre palais dans votre bouche était séparé, et il a fallu voilà, reconstruire ça et aussi réapprendre à parler finalement.
Oui, alors effectivement, quand j'étais enfant, ma sœur devait traduire ce que je disais même pour mes parents, parce qu'on ne comprenait pas du tout, je ne pouvais faire ni les consonnes ni les voyelles. Et puis, je me rappelle d'un moment où, après beaucoup d'opérations, les opérations ne marchaient pas bien, tout à coup, j'ai trouvé une nouvelle voix. Et mon papa m'a dit « ça, là, on te comprend bien ». Et on avait ce petit code avec papa où, en fait, si je n'étais pas dans cette bonne voix, il se pinçait l'oreille pour me rappeler. Et ça, c'était super joli parce que ça me permettait de retrouver mon chemin. Et puis, un autre moment...
Ça, c'est un premier moment.
Ça, c'est le premier moment, oui.
Le second.
Et puis, l'autre moment, c'est par rapport à la voix chantée. Quand j'ai pu travailler avec ma prof à New York, Lynn Martin, puis quand, après je me suis relevé, j'étais sur sa table de massage, m'avait travaillé la cage thoracique, je me suis relevé, et puis j'ai fait un son, puis tout à coup ce son, c'était le son que j'ai toujours su que j'aurais dû avoir mais que j'avais jamais accès. Tout à coup elle était là.
Donc on a, du côté d'Anne Ramoni, l'aboutissement de toute une vie dont elle entend profiter le plus longtemps. Du côté de Betty Patural, c'est une succession d'instants où on se sent en phase. Et puis, des moments clés pour ce qui est de Robin de Haas, comme on le voit bien d'ailleurs dans ce documentaire « Robin des voix ». Les avant-premières commencent la semaine prochaine. La première date est au Sentier. Il y en aura ensuite plusieurs, on vous le dira en fin d'émission. De manière, maintenant qu'on vous a entendu, tous trois à donner aussi aux auditrices et aux auditeurs quelque chose à entendre de chanter. Avec Ivor, on préparait cette émission. Et il m'a suggéré l'extrait suivant, c'est du Bobby McFerrin. Ivor, c'est ce qu'on va écouter. Ça arrive à quel moment dans la carrière de ce musicien?
Alors Bobby McFerrin, c'est une carrière assez extraordinaire. Je vais vous faire le plus court possible. À un moment donné, il a eu envie de masse vocale extraordinaire. Et ce disque en est l'aboutissement. Il s'appelle Vocabularies, où il a convoqué un nombre de chanteurs absolument incroyable, avec un agencement, une architecture qui est extrêmement généreuse. Et surtout, j'avais l'impression avec cette pièce très belle qu'on allait pouvoir englober toutes les voix que vous allez entendre. Vous allez nous dire après.
Un cœur pour accueillir nos invités, pour commencer cette discussion autour de la voix, des voix, de la respiration et de ce documentaire qui vous est consacré, Robin Dehaas. On écoutait donc Brief Eternity, une jolie contradiction, une brève éternité du projet de Bobby McFerrin.
Vocabularies, et cette composition est signée de Roger Trees.
Avant d'écouter les deux chanteuses qui sont venues sur ce plateau, ce qui nous permettra, avec Robin Dehaas, de faire toutes sortes de démonstrations et de descriptions de comment fonctionnent les voix et de comment la coordination respiratoire peut contribuer à les faciliter et peut-être les libérer, on va maintenant se focaliser brièvement sur Robin Dehaas, professeur donc de chant, coach vocal, et son parcours, puisque un documentaire, Robin des voix, sort tout bientôt. C'est un film de Frédéric Gonzette et Catherine Azad. On vous suit, Robin Dehaas, dans le documentaire durant 4 ans. On revient aussi au passage sur votre parcours et votre enfance. Vous évoquez explicitement ce handicap qui était le vôtre à l'enfance, toute la rééducation dont vous avez eu besoin pour rééduquer cette fente palatine. Vous évoquez aussi les brimades et les gravissime que vous avez subi enfant. On voit votre famille dans le film, votre sœur, votre mère, votre père, et on entend le rôle qu'ils et elles ont joué dans votre chemin pour trouver la voie. Et puis, on retrace votre travail de professeur de chant et de coordination respiratoire avec les gens avec qui vous avez travaillé, par exemple à New York avec Lynn Martin, vous la citiez. Et puis, les gens aussi à qui vous enseignez votre méthode et même à qui vous ont enseigné, notamment Anne Ramoni, c'était l'une de vos premières professeurs. Et on voit aussi des gens à qui vous suivez, à qui vous donnez des cours, comme Betty Patural. On a donc une bonne partie de la distribution du film réunie sur ce plateau de la distribution donc de ce documentaire. Voilà pour vous expliquer à vous qui nous écoutez ce matin dans quoi Robin de Haas s'est fourré. Mais maintenant, on va discuter de son parcours et de son travail.
Oui, alors moi ce que je me suis dit après avoir terminé de visionner ce documentaire que je trouve assez formidable, franchement, je me suis dit que cet handicap qui vous a été imposé à la naissance, s'il n'avait pas existé, je pense que vous seriez aussi chanteur et qu'il était une sorte d'accélérateur dans votre démarche, mais que vous ne dépendez pas vraiment de ça.
Vous auriez chanté de toute manière, on a l'impression, non ?
Oui, je pense que c'est assez juste. Après, j'ai l'impression que je serais peut-être... J'allais dire que je serais moins intelligent. Non, mais dans le sens, je pense que ça m'a aidé d'une certaine façon, puisque les techniques en fait, vocales, quand j'avais mes difficultés vocales, les techniques, je suis allé tout autour du monde prendre des cours. Et puis en fait, je pense que les techniques enseignées là auraient marché sur moi.
Juste préciser qu'il y a un peu deux épisodes. Il y a votre enfance où on surmonte donc ce handicap. Et ensuite, vous décidez d'être chanteur, qui n'est pas forcément la chose la plus évidente, étant donné de là où vous veniez. Mais après, jeune adulte, il y a un moment où votre voix ne suit pas ce que vous essayez de faire et vous êtes tout le temps très fatigué.
Oui, c'est-à-dire que la voix, en fait, sonne bien. Il y a un instrument qui est là, mais elle fatigue très, très vite. Et en fait, je m'aperçois, en allant prendre toutes sortes de cours, qu'en fait, les idées qu'on me transmet sont assez, je pourrais dire, peut-être caricaturales, et où il y a pas mal de combats de chapelle, où on va dire, non, tout ce que tu as appris avant, c'est pas juste, en fait, il fallait faire ça. Puis j'essaye de faire le ça, et ça marche une, deux semaines, puis après, je refatigue. Et du coup, je crois que si j'avais pas eu ce handicap, probablement ça aurait mieux marché, puisque l'imprécision aurait pas souffert de ma faiblesse. Et du coup, cette faiblesse que j'ai qui fait que je dois vraiment faire juste pour que ça marche, moi, je ne peux pas me permettre les erreurs que les autres peuvent se permettre. Donc peut-être vocalement, ça m'a rendu un peu plus malin.
D'accord, vous compensez moins. Juste qu'on comprenne un peu sur quelle dimension temporelle s'est déroulé le film. Vous avez été suivi par l'équipe pendant 4 ans, à chaque fois qu'il se passait quelque chose d'important dans votre parcours.
Oui, en fait, ça s'est joué un petit peu d'une manière... Il y a eu au début la proposition, décision, faisons quelque chose, essayons de... Il y a peut-être quelque chose à raconter. Ou moi, en fait, finalement, ça a été aussi la discussion, l'échange avec Catherine Azad, hein, qui est une personne d'une sensibilité extraordinaire, où je me suis rendu compte, mais en fait, oui, peut-être qu'il y a d'autres gens qui souffrent d'un handicap quelque part et qui, peut-être, en entendant cette histoire, ça peut leur permettre de ne pas baisser les bras. Et peut-être que s'ils ont des pensées noires, peut-être ça les aide. Et j'ai dit, ok, puisqu'avant, j'en avais jamais parlé du handicap.
Au-delà donc de la question de comment est-ce qu'on chante, comment est-ce qu'on chante mieux, comment est-ce qu'on souffle mieux, cet aspect du documentaire qui, c'est vrai, est fort et prégnant, du partage de ce qui vous est arrivé enfant, était donc vraiment un élément qui vous tenait à cœur.
Oui, c'est-à-dire pour moi, par exemple, j'avais donc fait de la recherche sur la voix avant, j'avais écrit un livre, et dans tout ce processus-là, j'ai jamais parlé de mon handicap. Parce que pour moi, c'était hors de question. J'aurais vu ça comme une espèce de demande de pitié un petit peu. Bon, alors j'ai fait des recherches qui marchent à peu près, mais parler de ça parce qu'en fait je suis né handicapé. Hein. Alors ça, c'était vraiment mais hors de question. Donc pour moi, c'était un tabou total.
C'était exactement le sens de la question que je vous posais.
Voilà, c'était vraiment...
Un des sens.
Pour moi, c'était hors de question d'en parler parce que je voulais surtout pas qu'on se dise, bon ben voilà, il fait son truc parce qu'il a été handicapé. Mais par contre, une fois que la reconnaissance et qu'on avait vu que les recherches que j'avais fait fonctionnaient sur les autres... Alors, quand il y a eu cette pensée, mais peut-être ça peut aider des gens, là, j'étais OK.
Donc l'équipe vous suit, on vous voit dans vos différentes activités, justement, dans le film, notamment donner des cours à des élèves en particulier ou donner des cours de coordination respiratoire. Aujourd'hui, donc, vous partagez votre temps entre des cours privés, votre enseignement à la Haute École de Musique de Lausanne, des formations aussi à la coordination respiratoire. Je répète ce terme depuis le début de cette émission, si on veut résumer les fondamentaux de cette technique, est-ce qu'on peut le faire ?
Oui, en fait, c'est un peu un principe tout simple de distribution de l'effort. Ça veut dire, dans notre cage thoracique, on a une bonne centaine d'articulations, et il s'avère que, sans qu'on s'en rende compte, on emploie tous beaucoup une partie, mais en fait, pas du tout une autre. Et alors évidemment, y a plus d'usure sur la partie qu'on emploie plus. Et en fait, la proposition de la coordination respiratoire, c'est simplement d'identifier chez chaque personne les parties qui sont moins utilisées, de leur réapprendre. Donc c'est une éducation. On va dire, regarde, tu peux bouger, toi. Et puis toi aussi. Et puis toi aussi. Et puis du coup, chaque côte, on va...
Toi, oui, d'accord, à des parties du
c'est
corps.
C'est les côtes, ouais, exactement. Alors oui, je parle beaucoup aux parties du corps comme à des personnes. C'est assez... je dis, voilà, bonjour, ça peut bouger ici, c'est possible, c'est OK. Et donc, il y a une bien-traitance et une bienveillance dans l'idée de redonner au corps cette richesse qui en fait est légitimement la sienne. C'est pour ça que j'ai été d'accord avec le titre, hein, Robin des Bois, c'est un hommage à Robin des Bois. Robin des Bois, qu'est-ce qu'il fait ? Il redonne aux pauvres une richesse qui devrait être à eux. Moi, mon idée, c'est que tous les gens qui pratiquons la coordination respiratoire, on est un peu des Robin des Bois, donc c'est pas un titre limité à ma personne, il se trouve que j'ai ce prénom-là, mais voilà. On est un peu tous des Robin des Bois, où on dit, mais attendez, vous avez une telle richesse en vous, qui est déjà là, qui n'est pas dépendante de nous, qui est dépendante que de vous, et de comment vous vous utilisez. Et cette richesse-là, ce potentiel respiratoire, il est hyper grand, puisque la nature nous a donné une redondance pulmonaire. Il y a énormément, on a énormément de possibles. Et donc ça va aider pour le chant, mais en fait, finalement, on respire tous. Si on est sportif d'élite, on a besoin de bien respirer. Si on est orateur, on a besoin de bien respirer. Si on est chef d'entreprise, et puis si on est malade aussi, si on a une fragilité pulmonaire ou le souffle court, et de redonner accès... Ça soulage tellement en termes de confort de vie. On va jamais, bien sûr, ça va jamais modifier un organe malade. Mais par contre, si la partie qui est malade, elle est moins sollicitée parce qu'on peut tout à coup refaire bouger ailleurs, ça améliore le confort.
Moi, je trouve c'est important de dire que en ce moment, vous êtes en train de parler, vous mettez les mains sur vous-même, vous touchez vos côtes, vous parlez aux différentes parties de votre corps en les regardant comme une personne, et on vous voit plusieurs fois dans le documentaire quand vous mettez vos mains contre les cages thoraciques, enfin différents endroits en fait de comme le ferait un ostéopathe par exemple. Moi, je me suis dit voilà, ça me rappelle mon ostéopathe, et je me disais alors vous, qu'est-ce que vous percevez avec les mains et qu'est-ce que vous essayez d'induire chez la personne qui est de l'autre côté de vos mains ?
Alors, je perçois la motilité. Ça veut dire que c'est la capacité d'être en mouvement. Donc, dans le sens, est-ce que sous mes mains, ça bouge ou ça bouge pas ? Et est-ce que ça bouge à la même vitesse dans toutes les parties des mains ? Est-ce qu'il y a une partie qui bouge plus vite qu'une autre ? Et puis, est-ce que pour le bouger, je dois presser plus fort à un endroit qu'un autre ? Et ça va m'indiquer, par exemple, des contractures intercostales. Par exemple, entre deux côtes, il y a un muscle qui s'appelle l'intercostal. S'il y en a un qui est contracté, les deux côtes, elles sont toutes collées. Puis c'est comme si on pouvait imaginer si on est sur un grand 8, puis on se cramponne. Puis on est comme ça, voilà.
Je serre le
cerveau. Ça ne peut pas bien bouger. Et donc, si c'est rigide, ça ne va pas bien pouvoir participer. Donc, par exemple, pour la voix chantée, si quelqu'un chante, s'il a des côtes rigides, ça marchera moins bien. Alors après, si on peut leur dire bonjour, vous pouvez, bonjour les côtes, vous pouvez vous laisser aller, c'est OK. Puis tout à coup, elles comprennent. Puis elles disent, c'est un petit peu comme dans le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Où il parle à l'oreille, puis il dit, mais calmez-vous. Puis le cheval, tout à coup, il accepte. On pourrait dire que, en anglais, ce film s'appelle The Horse Whisperer. C'est plus joli qu'en français. Mm-hmm. On pourrait dire que je suis un rib whisperer. Que je murmure à l'oreille des côtes.
À l'oreille des côtes. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Vous avez rencontré à New York une anatomiste et professeure de chant qui s'appelle Lynn Martin, qui elle-même était une disciple d'un grand chef de chœur et finalement la personne qui était à l'origine de ce concept de coordination respiratoire qui s'appelait Karl Stau. Est-ce que, très brièvement, vous pouvez expliquer ce que chacune des personnes dans cette chaîne de transmission, qui compte d'ailleurs jusqu'à Anne Ramoni, qui a suivi vos cours de coordination respiratoire, est-ce que vous pouvez résumer ce que chacun de ces trois acteurs a amené ?
Alors en fait, Stau, il avait des résultats fantastiques sur ses choristes. C'est un chef de chœur. Vous savez, quand on fait des pièces classiques, genre Handel ou Bach ou quoi, il y a des longues phrases qui finissent jamais. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on se répartissait les respirations. Toi, tu respires là.
Comme ça, on est sûr que c'est couvert.
Voilà. Et bien là, il arrivait à faire ces très longues respirations. Il y a un médecin qui s'est dit, mais ça pourrait intéresser mes malades. Il le fait venir et Stau, en fait, trouve comment prolonger le souffle de ces gens. Ce qui va, du coup, en fait, augmenter leur espérance de vie. Parce qu'un malade qui ne peut plus respirer, ne peut plus manger. Donc, du coup, il est très prétérité dans sa survie. Et donc, en augmentant le souffle d'un choriste, il est tout content parce qu'il arrive à faire la vocaliste de Handel dans le Messie. Mais en augmentant la respiration d'un malade, c'est sa vie qui change. Et du coup, on dit à Stau, mais il faut que tu nous expliques, il faut que tu formes des équipes de physiothérapeutes et tout ça. Et lui, c'est un génie. Il a comme un don, mais il n'arrive pas à expliquer. Et en fait, son travail aurait disparu, je pense.
Avec lui, oui.
Voilà. Il est mort en l'an 2000. Mais grâce au travail acharné de son assistante, Lynn Martin, en fait, on a accès à ce travail. C'est-à-dire, Lynn Martin, elle est anatomiste fonctionnelle. Donc, elle s'est dit, mais attends, c'est pas sorcier. Quand il bouge comme ça, il touche tel muscle. Donc, je pense que je fais l'hypothèse qu'il fait ça. Et pendant 25 ans, elle collecte ces datas. En 2005, moi, je faisais mon mémoire de recherche sur la différence entre le chant lyrique et le chant pop. Ça m'intéressait déjà beaucoup. Et du coup, Stau, il avait plus tard travaillé sur des chanteurs d'opéra, mais aussi sur des chanteurs de pop. Il raconte, par exemple, comment ça l'a beaucoup amusé de travailler sur Dolly Parton, puisqu'elle a des seins énormes et que du coup, pour travailler sa cage thoracique, il devait bouger ses seins.
Ça fait rire Anne Ramoni.
Mais non, on a...
Quelles que soient les accusations, peut-être, je ne sais pas, de sexisme qu'on pourra faire à cette émission, je dois insister pour les peut-être quelques auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas Dolly Parton que cette description, et j'en rougis, que cette description de Robin de Haas est tout à fait exacte et que ce n'est pas le premier à parler de la poitrine généreuse de Dolly Parton, ce qui n'enlève absolument rien à son talent. C'est notamment elle qui a composé « I Will Always Love You » dans une comédie musicale qui, une dizaine d'années après, serait un hit pour Whitney Houston dans la bande originale de Bodyguard.
Du coup, j'écris à Stau et il est mort. Donc, c'est Lynn qui me répond. Puisque moi, je voulais interviewer des gens qui avaient travaillé avec les deux. Et en fait, Lynn me donne une séance. Et quand elle me donne une séance, je tombe des nues parce qu'elle fait la même chose que ce que moi, je faisais intuitivement sur mes élèves. Deuxième séance, je lui dis, écoute, est-ce que je peux travailler sur toi? Parce qu'en fait, je fais un peu pareil sur mes élèves et j'ai peur de faire n'importe quoi. Donc, est-ce que tu peux me dire si je fais n'importe quoi ou si c'est bien ce que je fais ou quoi? Je fais sur elle. Elle me dit, mais attends, tu me jures que t'es jamais venu à New York? T'as jamais connu Stau? Je dis, non. Elle me dit, mais tu fais la même chose. Et là, on a un espèce de moment un peu Star Wars où elle contacte tous les gens qu'elle connaît qui connaissaient Carl. Elle dit, j'ai trouvé quelqu'un qui fait la même chose que lui.
L'héritier.
Ça fait un peu le padawan qui arrive. Et comme ça. Et puis, ils sont tous venus, un par un. Et ils m'ont tous raconté. Oui, alors sur moi, il a travaillé comme ça, il mettait ses mains comme ça. Ah, mais sur moi, il faisait comme ça. Et puis, j'ai noté. Ce qui m'a amené progressivement à constituer tout un corpus en observant ce que je faisais, en observant les vidéos de Stau qui étaient disponibles et en observant Lynn. Ça a permis la constitution d'une formation, progressivement, pour faire d'une longue histoire quelque chose de très court. Et en fait, quand les gens ont vu les résultats que j'avais avec ça, et j'étais aussi moi complètement surbooké, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui se sont dit, mais oui, en fait, ça, il y a quelque chose là qui manque. Et je pense que, Anne, c'est probablement ça qui t'a donné envie de
au voilà. Point que donc, vous formalisez la méthode, et ensuite, avec Lynn Martin d'ailleurs, vous allez commencer à donner des cours de manière à ce que d'autres personnes puissent enseigner la coordination respiratoire. C'est votre cas, Anne Ramoni. Mais on va vous entendre chanter après, et puis vous nous décrirez peut-être le parcours qui vous a amené. Mais on voulait vous faire écouter, avant ça, avec Ivor, deux voix de l'histoire de la musique populaire. Disons, deux voix qu'on va retrouver tout à l'heure à 11h30 dans La Voix du Standard, l'émission d'Ivor Malherbe. C'est à chaque fois des chansons de Cole Porter qu'elle chante. On va pouvoir en discuter brièvement. Et on commence par Luis Mariano.
La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Parti là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique.
C'est vraiment toute une époque qu'on entend là avec cette version de « C'est magnifique, it's wonderful » par Luis Mariano. L'avis de l'expert, Robin Dehaze, qu'est-ce qu'on entend dans cette voix de Luis Mariano?
C'est intéressant parce qu'on entend quand même une vocalisation, une vocalité un peu dans la direction de la voix classique. Avec, quand les sons sont tenus, on entend la présence du vibrato, on entend une certaine patte sonore. Et puis par contre, dans d'autres moments, on a des sons un petit peu plus courts, un peu plus piqués comme ça, qui vont évoquer plus un langage, justement, ben, plus des musiques populaires.
Légères.
Voilà, exactement.
Et avec l'opérette, on est effectivement à la jonction entre ces deux styles. Vous passez brillamment l'examen, Robin Dehaze. Et Ivor Malherbe vous propose de même... à nos chanteuses, une voix féminine cette fois-ci.
Oui, et je me permets juste de dire que ces chansons, on les écoutera en entier tout à l'heure, à partir de 11h30. Alors, deuxième voix, elle est beaucoup plus grave dans la série des voix de femmes.
After you. Could supply my sky of blue after you. Who could I love after you? Why should I take the time to try? For who else could qualify?
Alors Jerry Southern qui chante encore une chanson de Cole Porter puisque ce sera la thématique tout à l'heure. Mais c'est une des voix les plus graves qu'on peut entendre dans le jazz. Elle mêle le fait avec beaucoup d'aisance, c'est pas une voix éraillée. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, Robin Dehaze, dans cette voix-ci?
Ben là, déjà, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a justement dans la voix de femme l'usage de cette couleur comme la voix parlée, que communément on appelle la voix de poitrine, qui va en fait voyager dans le registre. C'est-à-dire que quand on va monter, on ne va pas aller vers une couleur opératique. On ne va pas aller vers quelque chose qui tourne comme ça, comme on l'entendra tout à l'heure. Et du coup, ben, ça, ce qui est intéressant pour moi, c'est de se rendre compte que l'usage de l'instrument comme ça, c'est tout un usage aussi, c'est tout un langage, c'est tout un vocabulaire en fait.
Une culture.
Expressif, une culture, absolument. On peut parler de culture musicale et vocale, de vraiment, pour chaque style, il y a des référentiels sonores, identitaires, émotionnels qui font partie de ça. Et ça, pour moi, je suis extrêmement fier et heureux de, par exemple, à la Haute École de Musique, d'avoir le poste de technique vocale pour les musiques actuelles et qu'on dise pas « Ah, les musiques actuelles, il faut qu'ils fassent d'abord du chant lyrique pour après faire de la musique actuelle. » Bah, c'est faux. Mm. C'est pas, spécialement chez les femmes, on le verra aussi tout à l'heure, c'est pas le même usage de l'instrument.
J'ai envie de préciser une chose, c'est que cette chanteuse a été une excellente pianiste, classique, de formation, et qu'en général, sur scène, elle s'accompagnait. Et à un moment donné, son producteur, lui a dit « Ah, mais je veux plus que tu sois au piano », alors qu'elle faisait des voicings très, très intéressants. Et,
des accords qui accompagnent le fait de chanter.
Merci, Benoît Perrier. Et du coup, elle a dit « Non, je préfère que tu sois debout près du micro. » Et ça l'a complètement déstabilisé. Ah, Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Eh bien, je pense que l'environnement corporel et sonore d'un musicien est très important, surtout pour le chant. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai l'habitude de jouer au piano, bah, en fait, bêtement, la manière dont je vais vers le piano, en fait, ça va influencer ma cage thoracique. Ça veut dire que je vais souffler, je vais sentir mon son, mon corps. Et du coup, si on m'enlève le piano et que j'ai pas l'habitude de faire le même geste sans ce geste qui accompagne avec les mains, peut-être que je vais complètement perdu.
Betty Patural, vous êtes autrice, compositrice, productrice, pianiste et chanteuse. Vous voyez cette différence suivant que vous chantez au piano, comme vous le ferez d'ailleurs tout à l'heure, ou vous chantez juste devant un micro ou même a cappella devant une salle?
Alors, Alors, je vois absolument la différence, mais je sais pas si, enfin, moi, dans ma manière de vivre les choses, je vois une différence technique. Mais vous voyez, comme vous disiez tout à l'heure, le fait d'être complètement déstabilisé, de pas se mettre au piano en chantant, moi, j'ai eu la sensation d'avoir vécu ce genre de choses quand voilà, j'ai eu plusieurs groupes dans ma vie où je composais, j'écrivais, et j'étais quasiment tout le temps au piano. Et quand on me disait « Ouais, mais ce serait bien que t'ailles devant et que ça catcherait mieux le public, etc. » Moi, j'ai plus eu la sensation qu'il y avait juste quelque chose qui manquait.
Qui manquait,
parce que mon entité à moi, là où je me sens le mieux, c'est de chanter et de jouer. Et, et c'est cool si on peut faire ce qu'on veut.
On entend bien les rapports étroits entre le corps qu'on habite et la musique qu'on produit. Anne Ramoni a quitté la table où elle était avec nous pour discuter. Elle a rejoint des micros de prise de son derrière moi de manière à pouvoir chanter. Elle est accompagnée par Athéna Carté au piano qu'on n'a pas cité jusqu'ici et à qui on sait gré d'accompagner Anne Ramoni. Et ensemble, de manière à ce qu'on puisse continuer comme ça, à détailler les voix, ce qui les distingue, ce qui en fait le sel et la qualité. Anne Ramoni va nous chanter un extrait du Barbier de Séville, un air de Rosine.
Fuck!
On ose applaudir.
On peut applaudir. Anne Ramoni peut nous rejoindre à la table de ce studio, ici à Espace 2. Je remercie Athéna Carté qui a accompagné Anne Ramoni. Athéna Carté qui va peut-être d'ailleurs nous quitter en catimini parce que d'autres obligations l'appellent, mais elle le fera quand ce sera le bon moment. On écoutait donc un extrait du Barbier de Séville de Rossini, chanté par Anne Ramoni. Il y a pas grand, enfin comment dire, quand on entend un final d'un air de Rossini, on sait généralement que c'est lui. Et Robin de Haas, vous qui êtes coach vocal et spécialiste de différents types de chants, qu'est-ce qu'on entendait de très typique là-dedans?
Bon, au niveau de l'écriture, il y a tout l'aspect vocalisant, et puis on est vraiment dans la souplesse du bel canto.
Donc, quand il y a des notes qui se succèdent très vite et qui...
Voilà, beaucoup d'agilité. Beaucoup d'agilité, donc...
En très peu de temps, de très bas à très haut, par exemple.
Voilà, très haut, très bas, très vite. Mais en même temps, c'est une écriture belcantiste quand même qui est fantastique parce qu'elle elle apprend à chanter. Elle nous enseigne le chant, d'une certaine façon, l'écriture. Puisque quand on chante pas bien, on n'a pas la souplesse. Donc on n'arrive pas, on n'arrive pas à faire les notes. Donc du coup, le fait de chanter cette musique-là, c'est grand du bel canto. C'est très constitutif hein, dans un trajet de développement vocal, notamment justement la souplesse qu'il faut pour pas savonner les vocalises, mais aussi l'agilité du coup. Ça suppose un geste technique en termes de tension du bord des cordes vocales, en termes de vraiment de gestes quoi, sans entrer dans les détails anatomiques, mais ça suppose un vrai travail. Et c'est vrai que quand on parle de l'âge d'or de la voix avec l'avènement du bel canto, je comprends complètement ça. En termes d'écriture, parce qu'on est dans un moment où on a des théâtres assez grands pour que vraiment la voix puisse être projetée, mais assez petits pour qu'on puisse avoir les agilités. Puis on n'est pas encore chez un Verdi ou un Wagner, où là, ça devient beaucoup plus grand, les orchestres grandissent aussi beaucoup, et où il faut tout le temps une patte sonore énorme. Et d'ailleurs, dans un développement de chanteur qui se fait bien, les œuvres plus larges comme un Verdi ou un Wagner, c'est pour plus tard. C'est dans le développement. Et là, on entend une belle agilité, etc. Avec tous les challenges de placement, de projection que ça suppose, puisqu'évidemment, il ne faudrait pas qu'on perde la voix dans les agilités.
Anne Ramoni, vous avez toujours eu, justement, cette facilité qu'on entendait là?
Je savais que je l'avais, mais je ne pouvais pas en disposer parce qu'il y avait vraiment des tensions qui avaient été ignorées ou en tout cas pas bien traitées. J'évite à dessein le mot maltraité. Je n'ai pas été maltraitée dans mon parcours vocal en conservatoire, mais il y a des choses qu'on a négligées, je pense, de travailler, que j'ai pu travailler après coup avec Robin, et notamment cette mobilité harmonieuse de la cage thoracique qui fait qu'au bout d'un moment, quand tout arrive à bouger, le larynx, enfin les cordes vocales, peuvent travailler comme en suspension égale et vraiment verticale sur une soufflerie qui les alimente, qui alimente le son. Et ça m'a permis d'avoir accès à ce genre de répertoire que j'assumais vraiment très mal il y a encore 4-5 ans.
Cette sensation que vous décrivez, ou plutôt ce mécanisme que vous décrivez, est-ce que justement vous en avez la sensation pendant que vous chantez, vous êtes consciente de comment tous ces muscles et tous ces différents mécanismes fonctionnent ensemble?
Pour ma part, oui, parce que ça a été vraiment à gagner millimètre par millimètre, côte par côte, demi-côte par demi-côte. Mais je peux parfaitement imaginer que quelqu'un qui a ça à peu près spontanément ne le sente pas à ce degré-là. Là, c'est vraiment le travail que j'ai dû faire pour pouvoir y arriver. Donc, je peux aussi l'enseigner. Et ça, c'était vraiment ma quête. Ma terreur, c'était de transmettre quelque chose de faux, quelque chose qui abîme. Ça m'a toujours, toujours aiguillée dans ma recherche pour vraiment être sûre d'être juste, être sûre d'ouvrir la voie, d'être sûre de favoriser la voie, de favoriser l'être chez l'autre et de ne pas l'abîmer.
Une spécificité de votre travail, Robin de Haas, donc on vous voit dans ce documentaire Robin des Voix, vous avez aussi publié un livre en 2015 qui reprend les tenants aboutissants de votre méthode. Une de vos spécificités donc, c'est de vous occuper tant de voix lyrique comme celle d'Anne Ramoni qu'on vient d'écouter que de voix pop comme celle de Betty Patural qui est en face de moi dans ce studio et qu'on va entendre davantage au fur et à mesure que cette émission avance. Et vous avez proposé, avec la complicité des chanteuses qui sont là, qu'on entende d'ailleurs au plus près la différence entre ces deux types de voix. Et elles ont donc accepté de se prêter à l'expérience en chantant chacune un petit bout de mélodie. Eh bien, que voici.
Une fois un si.
Alors, le si, je vais vous...
Mais pour ça, il faut qu'on s'accorde et donc qu'on produise un si. Athéna Carté est encore là, en fait.
Voilà. Oui, j'ai cru qu'elle était partie.
C'est moi qui commence ?
Ouais, c'est Betty Patural, c'est à vous.
Somewhere over the rainbow.
Voilà, même note, Anne.
Somewhere over the rainbow.
Voilà, puis maintenant, tu le donnes vraiment en version plus classique, encore.
Somewhere over the rainbow.
Voilà, et maintenant en mi. Tu nous donnes en mi, voilà.
Somewhere over the rainbow.
Voilà.
Alors, Betty Patural a eu droit à un seul essai, mais j'ai vu effectivement une grande différence entre la version que vous en avez donnée, Betty Patural, et la dernière que vous avez chantée, Anne Ramoni. Robin Dehaas, qu'est-ce qui se passait là-dedans?
Bah, en fait, ce qu'on entend, c'est que Betty, quand elle chante dans la première tonalité qu'on a fait, elle est en fait déjà dans un moment intense de sa voix. Quand elle va sur le saut d'octave, sur le « somewhere », on entend déjà une intensité. Et en fait, quand Anne, qui est chanteuse lyrique, le fait là, on entend qu'elle est sur le si, elle est au milieu de sa voix. Elle n'est pas du tout en haut. Et en fait, du coup, la même note, pourtant chantée par deux femmes, quoi, puisqu'on sait qu'il y a une différence de tessiture entre hommes et femmes, mais entre deux femmes, la même note en pop, ça correspond à l'intensité, à la tension des cordes d'à peu près une quarte plus haut en classique. Donc, si on peut réentendre une fois, je peux avoir le si. Mais dis, tu fais juste une fois la phrase encore, puis vous écoutez la note d'en haut, le somewhere, comment il sonne, à toi.
Somewhere over.
Voilà. Maintenant, en mi, Anne.
Somewhere over.
Et là, on a la même tension des cordes. C'est-à-dire les cordes,
puisqu'on
leurs cordes vocales sont...
demandé à Anne Ramoni d'aller plus haut quand même.
Ouais.
Au-delà du relatif, en termes absolus, elle était plus haut.
C'est ça. Mais du coup, comme les cordes vocales n'ont pas le même geste, c'est un petit peu comme si on chantait en première et deuxième avec une voiture... Et où après, on était en troisième et quatrième. Et du coup, ce n'est pas les mêmes gestes pour les chanteuses, pour la voix lyrique à la voix pop. Et donc, du coup, la même note ne représente pas, n'est pas au même endroit dans la voix. Ça veut dire un si, en l'occurrence pour la note que Betty a fait, c'est déjà un peu le haut de sa voix en pop.
Et Betty Patural, dans votre formation donc de chanteuse de musique actuelle, est-ce qu'il y a eu des moments où vous aviez l'impression qu'on cherchait justement à former, à guider une chanteuse lyrique, là où ce n'était pas exactement ce dont vous aviez besoin?
Non.
Alors, c'est que ce n'était pas une très bonne question.
Non, parce qu'en fait, avant de rencontrer Robin, je n'avais pas particulièrement pris de cours. J'avais une formation... une auto-formation vocale assez intuitive. Et ce qui m'a permis de ne pas passer par ce genre de chemin.
D'acrobatie,
c'est exactement le terme.
Oui, parce qu'on a vraiment des gens qui se fatiguent, en fait, puisqu'on leur fait apprendre que, par exemple, justement, le si, là, qu'on disait, qu'en fait, ça, c'est le milieu de la voix. Mais en fait, quand ils essayent en pop, en fait, c'est beaucoup plus intense pour eux. Alors, ils ne sont pas contents de la couleur parce qu'ils sont un peu comme ça. J'ai même une chanteuse qui en a fait un spectacle humoristique, Véronique Tellin.
Sur les moments où la voix la fuit, finalement.
Elle a raconté, en fait, qu'elle voulait faire de la pop. Magnifique spectacle qui s'appelle Mise en boîte, qu'on peut voir dans différents théâtres dans la région. Elle voulait apprendre à faire de la pop, mais dans la formation de prof d'école de musique, on apprenait le chant classique. Et elle a appelé ça la classipopite. Et la classipopite, c'est quand on veut chanter de la pop et que tout à coup la voix fait comme ça, parce qu'on apprend à chanter en placement classique alors qu'on aimerait chanter de la pop. Et ça, c'est un grand problème parce que du coup, là, les gens après forcent leur voix d'en bas pour pouvoir aller en haut, donc ça ne va pas du tout.
Mais d'ailleurs, ça me rappelle un cours avec toi, Robin, où justement, donc on avait déjà quand même bien avancé dans notre chemin vocal. Et puis je lui avais dit, mais écoute, Robin, je suis curieuse. essaye de me faire, de me guider vers une voie lyrique sur quelques notes pour savoir ce que ça fait. Et ben, on était allé, mais un tout petit peu plus vers la voie lyrique, mais vraiment loin de ce que les chanteuses lyriques font tous les jours. Et je me rappelle que ça m'avait déjà déséquilibré pendant plusieurs jours parce que ça m'avait fait voir une autre perspective dont j'avais pas du tout l'habitude et ça avait quasi changé un peu mes repères.
Métis Pâtural, votre premier EP, donc un mini-album de 4 titres, est sorti hier. Il est disponible sur toutes les plateformes. Il s'appelle « D'où je suis, où es-tu ?»
Absolument.
Avec des points d'interrogation. Et vous allez nous en livrer un titre ici. Vous allez donc succéder à Athéna Carté.
Avec plaisir.
Au piano. Vous allez nous chanter « J'ai peur de la nuit ». Je vous laisse rejoindre le tabouret de piano. Je vais demander à Antoine Weissenbach et Gilles Ozaman qui réalisent l'émission, de préparer la configuration la configuration des micros de manière à ce qu'on puisse entendre Métis Pâtural. Le EP dont elle vernit ici un titre à une dominante très électronique, et je pense que ça sera intéressant que là vous entendiez à quoi peuvent ressembler ces chansons en mode purement acoustique. Métis Pâtural, c'est à vous.
Les rideaux bleus, comme au cinéma, c'est les étoiles qui mettent en scène ton corps qui danse sur mon sommeil. Mes rêves s'éteignent quand tu tombes avec elle. Je te rattrape du bout des lèvres. J'ai peur de la nuit, seulement quand elle est froide. La brume inspire tous les scénarios. Je te vois partir, je crois que je suis tombée. Je plonge en elle, le cœur amnésique. Toutes mes cellules sont cinématiques. Je perds ton reflet. Yeah.
Et c'est tout le studio qui applaudit Betty Patural dans cette version piano et voix. C'est elle qui jouait au piano de J'ai peur de la nuit. Betty Patural qui nous rejoint à table dans l'écho des pavanes sur Espace 2. Betty Patural, ce titre est extrait de votre premier EP, je l'ai dit.
Absolument.
Et je peux partager avec les auditrices, les auditeurs et aussi nos invités que la version qu'on en entend sur le disque est très différente en termes d'arrangement.
Oui.
Il y a par contre quelque chose qui reste constant, c'est votre voix, son grain et sa qualité. Robin de Haas, vous avez travaillé avec Betty Patural. Est-ce que vous aviez l'impression qu'on avait là une illustration de cette spécificité de la voix pop que vous nous décriviez ?
Oui, en fait, dans le langage là que Betty emploie, ce qui moi m'intéresse, c'est de quel est le maximum de possibilités. Ça veut dire que toutes les couleurs qu'elle entend, j'entends qu'elle peut les faire. Ça veut dire ce qu'elle a envie de faire se passe. On entend, hein, tout à coup, elle a des couleurs un peu voilées, un peu feutrées, mm-hmm. avec un petit peu aussi de distorsion, de growl ou des choses
et
comme
puis
ça.
Il y a de l'improvisation.
Voilà, tout est fluide. Mais surtout, ce que j'entends dans ce que tu proposes là, c'est qu'en fait, quand elle entend une couleur dont elle a
envie,
et on entend qu'elle a une culture, hein, on entend que c'est quelqu'un qui a écouté énormément de jazz, on entend que c'est quelqu'un qui a écouté beaucoup d'électro, on entend que c'est quelqu'un qui a écouté beaucoup de même plus large de musique du monde aussi, etc. Dans les sonorités, on a tout ce langage-là finalement qui existe. Et du coup, moi, ce qui me plaît, c'est que j'entends qu'elle peut, quand elle entend quelque chose, le faire, et que ça ne lui cause pas de fatigue.
Betty Patural, Ivor, je me fais son porte-parole, mais Ivor, quand on préparait cette émission, parce qu'il faut, le temps passe très vite avec vous tous, donc il va bientôt falloir qu'on plie là ce moment dans l'écho des pavanes, mais Ivor a eu la réflexion suivante, il a dit, mais est-ce que le travail que Betty Patural a fait avec Robin de Haas, sur le lien entre le souffle, libéré, la voix, a changé sa manière de composer ?
Oui, c'était, c'est une question super intéressante. Disons que avec Robin, alors tout le travail qu'on a mené avec Robin est basé sur la technique vocale. Et la technique, c'est un truc qui est fait pour se mettre complètement au service de l'art. Donc, en fait, de la même manière que quand je composais des trucs, j'avais envie de faire des choses que j'arrivais pas forcément à faire tout de suite avec ma voix. Du coup, le chemin avec Robin m'a beaucoup aidé pour ça. Ça m'a vraiment donné accès à des tas de couleurs que je voulais développer, que j'avais pas.
Une palette aussi large que vous.
Voilà,
les
j'avais encore pas. J'avais encore pas forcément tous les outils. Et de la même manière que du coup la technique se met au service de ce que je voulais faire, la technique elle ouvre aussi des nouvelles horizons. Et c'est des choses qu'on pratique et qu'on travaille, et de manière pas forcément consciente, ça se retrouve forcément à un moment donné dans ce que j'écris. Et je verrais les choses plutôt comme ça, c'est vraiment tout le temps un aller-retour entre les deux, et que l'un est au service de l'autre.
La technique au service de l'art, c'est sans doute le mot de la fin pour ce matin, pour ce moment que nous avons passé ensemble autour du film Robin des Bois qui met en scène Robin de Haas, autour de Betty Patural et autour d'Anne Ramoni. L'écho des pavanes continue, mais il ne faut pas que je laisse partir mes invités et vous, Yvan Malherbe, qui avez préparé ce moment avec moi, avant d'abord de vous avoir tous et toutes remerciées, de dire que le film Robin des Bois a sa première avant-première mercredi au Sentier, au cinéma La Bobine, qui a ensuite toutes sortes de cinémas qui vont accueillir l'avant-première de ce documentaire, des cinémas qui sans doute projetteront ensuite le film, que toutes les séances, la liste de toutes les séances est sur le site Robin des Bois. .com, donc voix V-O-I-X. Vous saurez donc quand et où aller le voir, que ce soit à Aubonne, Orbe, Morges, Yverdon, Montaigne, Neuchâtel, Genève, Delémont, Fribourg, Sainte-Croix, Puyi, et j'en ai sans doute oublié un ou deux, que le EP de Betty Patural, non, vous allez me rappeler le titre.
D'où je suis, où es-tu ?
Est disponible sur toutes les plateformes de streaming et que Betty Patural, P-A-T-U-R-A-L, est elle retrouvable sur tous les réseaux sociaux et que son Bandcamp, bettypatural.bandcamp.com, est un bon endroit où acheter son EP et que de votre côté, Anne Ramoni, il y a un site, c'est souffleetvoix.ch où on peut faire le point sur toutes vos activités, vos futurs concerts et vos activités diverses d'enseignement. On va se quitter, alors déjà on va dire au revoir tous ensemble, on va essayer de se synchroniser avant évidemment que cette émission ne continue, mais on va se dire au revoir et puis on va se quitter pour ce moment avec l'un des titres du EP de Betty Patural, c'est le titre qui s'appelle Anna. Allez, on inspire, 1, 2, 3.
Au revoir. Au revoir.
Et à tout bientôt dans l'écho des pavanes qui continue avec vous dans quelques secondes. Anna par Betty Patural. Je vous avais dit que quand elle était sur son EP, eh bien, la production était différente. C'est la même personne que vous avez entendue au piano, en piano-voix tout à l'heure. Et là, avec toutes ses machines, c'est elle d'ailleurs qui signe la production de ce mini-album qu'on ne saurait trop vous recommander dans l'écho des pavanes qui poursuit, eh bien, avec vous.